En effet, il n'y a pas que la musique. Il y a aussi une thématique des débats sur Esperanza et sur Radio Esperanza, évidemment. Radio Esperanza, radio.esperanza.be.
Débat sur Radio Esperanza.
C'est
hyper intéressant.
Mais c'est toi qui dois savoir ce qui va
s'appeler
Justice climatique.
Justice climatique, le débat sur Radio Esperanza.
Quoi ?
Justice climatique.
Donc nous y voilà, enfin, super jingle justice climatique. Le débat d'aujourd'hui va tourner autour de forcément la thématique du festival, mais on va focaliser le tout sur la dimension et l'engagement des artistes au sein de ce festival et à travers la thématique. Donc on accueille dans nos studios Arnaud Zachary, bonjour.
Bonjour.
Marlène Dorsena.
Bonjour.
Qui a fait une représentation, donc la première de la journée à 13h côté jardin, avec Alexandre.
Bonjour.
Bonjour, qui fait de la human beatbox sur scène, invité de Marlène, c'est bien ça. Et enfin, Bruno Stas, qui... Bonjour.
Bonjour.
Qui coordonne le projet de Sing for the Climate.
C'est ça.
Voilà. Donc, peut-être ce que je proposerai dans un premier temps, c'est vous présenter, un peu expliquer votre rôle ici sur le festival au sein, par rapport à la thématique, et puis peut-être votre, en quoi est-ce que vous vous identifiez à cette thématique. Arnaud.
Oui, donc moi c'est assez simple, hein, je suis secrétaire général du CNCD On Son Sens, on lance la campagne On Son Sens ici à Esperanza sur la justice climatique, hein, vous l'aurez compris. Donc il y a plusieurs choses, bon les principales c'est un village de la justice climatique qui permet de sensibiliser les festivaliers aux enjeux de la justice climatique pendant tout le festival. Et puis le point d'or qui va avoir lieu tout à l'heure à 19h15, donc le lancement officiel de la campagne sur la scène avec Marlène, avec Primitif, donc c'est dans quelques heures. Quoi.
Voilà. Marlène.
Oui, pour moi, je trouve que c'est quand même bien parti, dans la mesure où j'ai seulement dit une petite phrase qui a rapport avec le thème climatique, et je vois le public avait bien réagi. Donc ce soir, on va mettre le turbo, donc tout le monde doit se sentir concerné, sensibilisé par ce combat, par ce thème auquel j'adhère.
Primitive.
Pour moi, c'est, je suis content de pouvoir participer à ce projet, que la musique puisse sensibiliser sur cette problématique qui nous concerne tous. Et voilà.
Moi, je coordonne l'action Sing for the Climate. Donc, c'est une action qui aura lieu partout en septembre, le 22 et le 23 à Bruxelles et dans 8 villes wallonnes. Et le principe, c'est chanter pour le climat autour d'une chanson qui a été écrite pour l'occasion par le chanteur de Zita Soon, et alors on va déjà la chanter ce soir pour l'apprendre et être des milliers le 22 et 23 septembre.
Voilà, alors justement, donc pour rebondir sur Sing for the Climate, en regardant un petit peu, donc à la base, en fait, il s'agissait, vous avez fait des enregistrements vidéo, une forme de ciné-manifestation, dis-moi, c'était cité comme ça dans mes sources, où on a plusieurs personnalités, en fait, qui ont repris cette chanson, justement, qui a été écrite par les sur l'air de la Bella Ciao, si je ne me
c'est
trompe
ça.
Pas.
Donc, l'idée de base, c'est d'avoir une vidéo qu'on montrerait au sommet climatique de Doha des Nations Unies en décembre, et donc pour avoir un maximum de gens et pour appeler à l'action le 22-23 septembre où on prendra cette vidéo, on s'est servi de nombreuses personnalités comme Bully Lanners, comme Marlène ou comme le groupe Trio, et donc voilà, c'est un peu l'idée de faire monter la sauce. C'est la même chose pour les festivals, c'est pour ça qu'on est présent à Esperanza depuis 3 jours où déjà des centaines de gens ont chanté la chanson, et donc on espère se l'approprier et seront là en septembre.
Alors, est-ce que c'est juste une initiative belge, Sing for the Climate ?
C'est une initiative à la base belge et donc nationale. C'est fait en collaboration avec des néerlandophones. La personne à la base du projet, c'est Nick Balthazar, qui est un cinéaste flamand. Et alors, le destin futur est d'être international. C'est donc que ce soit diffusé partout dans le monde et que, en fait, la justice climatique soit un thème dominant en décembre, au moment du sommet de Doha.
Donc maintenant, je comprends pourquoi c'est en anglais.
Voilà.
C'est un projet qui me fait un peu penser à ce qu'il y avait eu, je pense, il y a un an ou deux, un projet qui s'appelait le Playing for Change, qui avait un peu le même, la même structure, on va dire. Qui, c'était donc un rassemblement de musiciens et qui reprenait une chanson qui s'appelait Stand By Me. Et l'idée, donc, c'était de reconnecter les plusieurs parties du monde à travers la musique, justement. Là, ça n'avait pas spécialement une vocation politique ou engagée vis-à-vis d'un problème au niveau du réchauffement climatique, par exemple. Mais il y avait eu donc des vidéos et également, en fait, une tournée. C'est-à-dire qu'ils ont joué, je ne sais pas, à Barcelone, ils ont joué à Paris. Et donc, est-ce que, par exemple, vu qu'il y a pas mal d'artistes engagés dans la vidéo et puis maintenant ici des festivaliers, est-ce que Sing for the Climate, par exemple, pourrait faire une petite tournée avec tous ces artistes et,
Avant de faire Sing for the Climate, Nick Balthazar, le cinéaste néerlandophone, avait fait Dance for the Climate et c'est un peu le destin que ça a eu. Et partout dans le monde, il y a des gens qui ont fait des vidéos en dansant pour le climat, en faisant la chorégraphie de base. Et donc peut-être, pourquoi pas, effectivement, avoir la même idée. C'est toute l'idée d'avoir une pétition humaine. Plutôt que de signer un papier où on s'engage, on dit « mais moi je chante pour le climat, je pense que les politiciens aujourd'hui doivent prendre des actions pour le futur de demain ».
C'est ça, en fait, c'est de pouvoir faire une pétition humaine. C'est dans le sens aussi, ben, les pétitions, finalement, on est dans la rue et quasi, je vais pas dire que quasi tous les jours, on est abordé en rue pour signer une pétition et qu'à la longue, finalement, est-ce qu'on les signe encore? C'est une façon de sensibiliser différemment, peut-être de façon plus ludique, j'allais dire, sans embêter les gens.
Ben, en tout cas, ça banalise l'action politique. C'est clair qu'ici, on chante pour le climat, donc ça, tout le monde sait chanter, ou en tout cas, si on sait pas chanter, on sait faire semblant et on aime bien ça. Moi, je suis un très mauvais chanteur, par exemple, mais j'adore ça. Et donc voilà, effectivement, ça prend 2 minutes, c'est ludique et ça participe à la conscientisation, à l'action collective de prendre notre destin en main en tant que collectivité.
Et puis ce qu'on veut aussi susciter, c'est que n'importe qui chez soi aujourd'hui, avec son smartphone, il peut se filmer en train de chanter et mettre ça en ligne via le site web. Donc c'est aussi le message, c'est de faire non seulement une pétition humaine, mais aussi une sorte de manifestation décentralisée où chacun de chez soi ou dans son village ou avec un groupe d'amis peut prendre l'initiative. On a tout un kit d'ailleurs qui est téléchargeable sur le site avec les paroles, avec la musique. Et d'ailleurs, il y a plein de citoyens qui commencent à faire ça un peu partout en Belgique et ça commence à prendre puisque bon, le fait que un groupe comme Trio, quand même, qui est quand même connu en France, etc., ça commence à faire son bonhomme de chemin. Puis évidemment, dans la coalition climat, avec laquelle on collabore, le CNCD en son sens, pour cette action. Mais il y a toute une série d'organisations comme Greenpeace, comme Oxfam, qui sont des réseaux internationaux. Nous-mêmes, on est dans des réseaux internationaux, on a des partenaires partout, y compris dans les pays en développement, évidemment. Et donc, le but du jeu, c'est de faire fonctionner aussi ces réseaux via les réseaux sociaux et d'autres pour que les gens se mobilisent, donnent de la voix, mais donnent de la voix avec une dimension politique. Donc, il y a aussi ce jeu de mots de dire, voilà, donner de la voix, mais c'est, chaque voix compte et on ira la porter, nous, vers les décideurs politiques parce que c'est aussi notre métier de faire du plaidoyer politique, quoi.
Alors, ce qui est bien, c'est, tu disais, une manifestation où chacun peut rester chez soi, c'est beaucoup plus sécurisant avec les forces de l'ordre.
Oui, c'est ça.
C'est très bien, c'est une très bonne idée.
Même les forces de l'ordre peuvent chanter, c'est voilà, pas le problème.
Mais justement, donc à propos de chant et de son, notre chère Rombeline, qui est ici à côté de moi, a fait des enregistrements de son justement sur à propos de Sing for the Climate. Rombeline, prends le micro.
Oui, mais justement, on parlait qu'on peut parfois faire semblant, mais donc on va entendre que tout le monde ne chante pas toujours très juste, mais que c'est l'important, c'est le geste qui compte en tout cas.
C'est ça.
Et oui, bah on va peut-être l'attendre un peu plus tard. Alors,
voilà. La question aussi, donc on disait que c'était une adaptation, ou c'est sur l'air de Bella Ciao. Pourquoi une sorte de chant révolutionnaire pour chanter pour le climat? J'ai dit contre le climat, pour le climat.
Je vais un peu casser le mythe. Il y a deux raisons fondamentales pour laquelle on a choisi cette chanson. La première, c'est qu'elle est libre de droit.
D'accord.
Et la deuxième,
c'était la condition sine qua non.
Et la deuxième, c'est que tout le monde la connaît. Après, effectivement, ça aide d'avoir une chanson qui a un passé et collectif comme celui-là, que tout le monde connaît dans l'inconscient. Ça nous rappelle un peu la lutte, mais l'idée de base, c'est qu'on voulait une chanson que tout le monde connaisse et qui soit disponible, parce que c'est une action encore faite par des citoyens et qui ne doit pas coûter cher, quoi.
Et les paroles ont été réécrites.
Les paroles ont été réécrites par le chanteur de Zita Soun.
Et quoi, dans l'optique d'être le plus proche possible du climat, donc dans les paroles aussi, ou c'était juste comme ça?
Non, c'est lui, il est dans l'optique. Des paroles sur le climat, donc Do It Now, Better World,
c'est en anglais.
Tout à fait, oui.
Donc c'est en anglais parce que c'est national et parce que ça a une dimension et une volonté internationale.
Pourquoi avoir participé? Vive le Bips! Alors on va d'abord vous demander, vous êtes déguisé ou pas? Comment? Expliquez-moi un peu, vous êtes qui en fait?
On est lapin, chocolat et caramel. C'est les Bips qui nous ont recueillis à Floref, ici dans les caravanes rose et mauve.
Si on veut vous repérer, comment on peut vous repérer?
Ah bah les oreilles,
Les oreilles de lapin.
Je pense que c'est ça, oui.
Et les cils aussi, vous êtes de magnifiques cils.
Ah oui, c'est vrai, les cils roses peut-être, mais ça moi on ne les voit pas beaucoup. Je pense que c'est nos oreilles.
Et pourquoi avoir chanté pour le climat?
Parce qu'on aime la chanson et on aime le climat aussi.
Et ça a été facile?
Mais il faut protéger la planète, sinon on ne pourra plus manger, nous les lapins.
Est-ce que je peux avoir un petit aperçu de Bella Ciao en a cappella là? À chaud, juste en sortie de scène?
Bella Ciao!
Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, Ciao, la 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 la. Ok, merci. Bonjour! Est-ce que je peux avoir une petite démonstration de la chanson a cappella?
A cappella? Il y a moyen d'avoir une petite...
Là, maintenant, tout de suite?
Moi, je suis pas bon chanteur, donc...
Il y a tout le monde qui se mouille, vous aussi? Alors, avec l'équipe?
Avec l'équipe,
on va essayer. Ok, on va essayer. Donc on est ici avec toute l'équipe de Sigfour de Climé, je tiens à le préciser.
We need to wake up, we need to wise up, we need to open our eyes, do it now, 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 we've got to build a better future, and we need to start right now.
Que les filles maintenant.
We're on a planet that has a problem. We've got to solve, get involved, and do it now, now, now. We got to build.
Les hommes, non?
A better future, and we need to start right now.
Ensemble.
Make it greener. Make it last, make it fast, and do it now, now, now. We've got to build. A better future, and we need to start right now.
Bravo, merci beaucoup.
Bravo. Hesitating. Voilà, donc oui, on chantait dans les studios, chers auditeurs, si vous n'aviez pas remarqué. Donc, Marlène Dorsena, si on avait pu augmenter le volume de ton micro, on a entendu donc le son de ta belle voix. Alors, Marlène, tu es marraine du CNCD et donc de la thématique. Et comment, on sait que tu es pas mal engagée, tu as monté un projet notamment qui s'appelle Haïti Chérie, qui essaye de mettre en évidence la culture ainsi que la musique haïtienne ici en Belgique. Tu es belgo-haïtienne, peut le dire. Et un projet qui a permis par exemple d'installer des pompes d'eau dans certains villages en Haïti. Alors ce genre de projet, c'est un travail qui se fait de manière assez locale. Voilà, on met une pompe d'eau, disons que c'est des choses très ponctuelles. Au jour d'aujourd'hui, est-ce que ça suffit de faire un boulot comme celui-là, ou est-ce qu'il faut travailler pas seulement au niveau local, mais aussi par rapport à une dimension plus climatique? Comment est-ce qu'on fait pour mêler à la fois un travail très concret, on amène une pompe d'eau, mais aussi travailler sur le climat? Comment est-ce qu'on contrôle Comment est-ce qu'on essaye de contrôler tout ça dans son engagement en tant qu'artiste, etc.
Mais je dirais que tout est lié, hein, finalement. Et puis, ma présence ici au sein du SNCD, ce n'est pas un hasard pour moi. C'est toute une évidence parce que je connais les valeurs que véhicule le CNCD. C'est pas tout nouveau. J'adhère à ces valeurs-là. Et puis, la nature, c'est quelque chose qui me parle parce que dans ma famille, nous sommes tous, mes grands-parents sont tous des cultivateurs. On les appelle en Haïti des paysans. Donc, on nous a toujours appris à vivre en harmonie avec la nature, à respecter la nature. Et c'est un de mes combats aussi, parce que vous savez, en Haïti, nous avons un gros problème de déforestation. Et donc, à chaque fois que je mène un projet en Haïti, il y a toujours la nature qui est là. Par exemple, l'installation d'une pompe à eau, ben, c'est pas suffisant, parce qu'il faut apprendre aux gens, il faut leur apprendre, par exemple, à planter. Tel arbre ne peut pas être à côté de tel arbre. Il y a toute une éducation qui se fait à ce niveau-là. Donc, ma participation ici ne va pas se situer dans l'espace de 3 jours du festival. Je pense qu'il y a toute une continuité. Et puis, je pense que nous avons de la chance d'intégrer ce projet au sein d'un festival où tout le monde est à une bonne humeur, tout le monde est à l'aise, tout le monde est joyeux, ça passe très vite. Or, si on devait se placer dans un carrefour ou bien dans une rue, et les gens sont stressés par les petits bobos de la vie et on leur distribue des feuilles, on les retrouve par terre ou bien à la poubelle. Or ici, la sensibilisation, je pense qu'elle a sa place et que c'est beaucoup plus efficace, en tout cas en ce qui me concerne.
Et vous avez déjà d'ailleurs été partie prenante d'une des campagnes du CNCD. C'est pas la première fois en fait, vous non. avez une longue histoire avec le CNCD.
Alors. Oui, justement. je pense que cette histoire va se transformer en histoire d'amour. Parce que j'adore ce mot-là. Donc vous voyez, quelque part, je suis très honorée de pouvoir participer à ce projet parce que je n'aime pas faire semblant. Ça fait partie de mes aspirations, de ma personne et j'aime bien être entière lorsque je fais quelque chose. Donc, je peux vous dire que je suis là avec mon cœur, mon âme, avec mes forces. Et j'espère que ce thème aura un impact sur le public. Pas seulement le public d'Esperanza, mais toutes les autres personnes qui nous écoutent actuellement.
Et alors, au niveau avec Primitive, on va... En fait, tantôt, on t'a présenté Primitive, mais on disait que tu étais Human Beatbox. Mais explique-nous un peu ce que tu... Enfin, ton...
Qu'est-ce que tu fais là?
En fait, c'est pas ce que tu fais là. Qu'est-ce que tu fais de ta vie? Tu vas pas rentrer dans les détails. on peut juste parler.
Alors, voilà. Moi, j'adore la cuisine japonaise.
C'est bien, c'est cru, donc on consomme pas beaucoup d'épices.
Excellent.
Non, moi, voilà, en deux mots, j'ai fait des études de philo, je fais du beatbox, j'adore faire de bruit avec ma bouche. J'aime bien la musique, je m'ouvre à beaucoup de styles musicaux. Et j'ai travaillé pour Oxfam, DDF et des ONG, donc je suis un petit peu un mec qui aime bien sauver la terre et tout ça, mais en vrai, enfin, je veux dire, c'est pas juste pour dans l'apparence, quoi. Enfin, et donc je suis comme Marlène, peut-être un peu moins qu'elle, parce qu'elle est vraiment impliquée, plus que moi, j'ai pas la prétention d'être aussi impliquée qu'elle, mais j'aime pas faire semblant. On m'a proposé cette campagne et on m'a parlé de Marlène, j'ai regardé ce qu'elle faisait, j'ai trouvé ça vraiment génial. Là, tout à l'heure, j'ai vu son show, j'ai trouvé ça génial. Je suis content de faire ça avec elle. Moi, je vais faire l'instrumental à la voix. Donc, ça va être 100% vocal quand ça va se passer sur scène, là, tout à l'heure, à Esperanza. Et on va reprendre donc vocalement le thème de Save the Climate ensemble. Moi, j'aime bien le côté symbolique du beatbox 100% nature.
Voilà, c'est ça que je voulais arriver aussi.
qui 100% bio, ouais. Organique, en général, on ne le voit pas trop, mais moi, c'est un des côtés du beatbox que j'aime beaucoup. C'est le côté 100% organique, libre. Tu n'as besoin d'aucune machine, aucune technologie. Et, le jour où il n'y aura plus de climat, il y aura toujours la bouche pour faire de la musique. Et donc, voilà, je ne sais pas.
C'est excellent. Ah bah oui, non, mais de toute façon, voilà, c'est la volonté. C'est pour ça que, au niveau de la campagne et du lancement de la campagne, vous avez choisi un beatboxer pour être vraiment dans le côté assez. On reste droit dans ses bottes et oui. Voilà, si on défend le climat, on va pas le défendre à coup de feu d'artifice, quoi.
Oui, puis aussi, ce qui est plus intéressant encore, c'est ces deux exemples, ils viennent de l'expliquer eux-mêmes. dire les personnalités qui s'engagent avec nous, c'est pas parce qu'elles sont connues, c'est parce qu'elles ont des convictions. Je pense à Pierre Croll, le caricaturiste, il fait des caricatures pour nous, mais il est tout à fait persuadé de nos enjeux. On a eu Olivier Gourmet, par exemple, acteur, qui est un ancien vendeur en Sonsons quand il était jeune. Donc la liste est longue parce qu'on en a plusieurs comme ça, mais en tout cas, on ne veut pas faire du people. Ce qu'on veut, c'est au contraire sensibiliser les gens. Et donc, des personnalités qui sont connues dans différents milieux peuvent nous aider à faire passer des messages, mais ils les feront d'autant mieux passer qu'ils y croient eux-mêmes et que c'est dans leur trip. Et donc, voilà, nos partenariats, on les veut sur cette base-là. Et ici, avec Marlène au Primitif, on a deux exemples. Je dois dire, on n'a jamais eu à beaucoup insister pour les motiver à venir participer à nos campagnes. Quoi.
Si je me permets, pour moi, c'est de la propagande, mais c'est la seule manière de faire la propagande que je trouve acceptable. Parce qu'il faut le dire, on essaie de passer un message avec d'une manière ludique et musicale. Et voilà, mais au final, ça reste, on essaie de toucher les gens. C'est la propagande, c'est la bonne propagande. Ouais. Quoi.
Puis vous faites du militantisme, on vous donne pas un euro. Oui. Hein, il y a beaucoup d'organisations qui prennent une personnalité.
Ah bon
et donc, ils font ça de manière citoyenne. Ils demandent rien du tout pour faire ça. Donc, ils prennent tout sur leur temps. Donc, ça veut dire qu'ils y croient. Autrement, ils ne le feraient pas. Ou alors, ils sont maso. Mais c'est pas le cas.
Oui, et puis, bon, moi, j'ai déjà participé à pas mal de festivals. Et puis, je ne sais pas, je trouve ça tellement important d'intégrer... ce genre de sujet qui concerne tout le monde, la planète entière, au sein d'un festival. Pour moi, c'est très important de le faire. Et donc, voilà, ce qui explique aussi ma présence.
Alors, juste une question. Est-ce qu'en tant qu'artiste, donc on vous s'est engagé, on vient de l'entendre, est-ce qu'en tant qu'artiste, vous êtes prêt à défendre toutes les causes ou est-ce qu'il y a des causes qui vous tiennent peut-être plus à cœur? Vous les choisissez?
Parce que tu travailles aussi notamment avec, par exemple, le problème des femmes, oui. Etc.
Moi, je ne sais pas. J'utilise rarement le mot engagé parce que je me dis toujours, à partir du moment où nous avons un petit souffle qui nous permet de manger, de boire, de dormir, de parler, d'agir, ben qu'on aille quoi, on fonce. C'est tout. Moi, je n'ai pas une étiquette qui me dit « Ah non, tu dois seulement faire ça, tu peux pas faire ça ». Non, par exemple, hier soir, j'étais sur le net très tard, vers 2h du matin, et j'ai découvert une chanteuse africaine. Et je voyais son combat aussi contre l'excision. Et j'ai jamais parlé de ça. Je sais que ce problème existe, mais je me suis jamais impliquée dedans. Mais j'avais vraiment envie de lui téléphoner, de lui parler, de lui poser des questions pour dire est-ce qu'on peut t'aider, qu'est-ce qu'on peut faire, parce que c'est quand même un sujet assez important pour les femmes, pour les jeunes femmes. Donc vous voyez, moi je n'ai pas vraiment une préférence, quoi que ce soit. À partir du moment où je peux être utile, j'y vais, je fonce.
Il faut quand même que ça te touche.
Oui, il faut que ça me touche, bien sûr. Oui, ça c'est important. Donc le thème climatique, c'est très important pour moi parce que comme je vous expliquais tantôt, je suis très impliquée. Hein. Je fais partie d'un groupe en permaculture. Depuis 2 ans, je suis une formation. Je jardine. D'ailleurs, il y a 2 endroits où je me sens bien. C'est lorsque je suis sur scène ou lorsque je jardine. Vous voyez. Donc
c'était
très
bien alors la scène côté jardin.
Oui, voilà. Il n'y a pas de hasard dans la vie. Donc ce que j'ai envie de dire à toutes celles et à tous ceux qui nous écoutent, nous devons agir, nous devons faire quelque chose, ne fût-ce qu'un petit geste pour la nature, par respect pour nos ancêtres, par respect pour nos enfants, pour nous-mêmes aussi. Parce que ma grand-mère disait toujours, ce corps, lorsqu'il va plus exister, eh bien, il faut qu'il reste là où il est, en paix. Donc, quelque part, nous sommes tous des passagers, nous sommes tous des passants. OK? Ça veut dire, essayons quand même d'être en harmonie avec nous-mêmes, d'être en harmonie avec les autres, pour qu'un jour, lorsque ce corps n'existe plus, qu'il se repose en paix. Vous voyez, un petit geste, c'est rien du tout. Si tout le monde s'y met, eh bien, on gagnera énormément.
Et pour toi, Primitive, la question, donc, est-ce que tu es prêt à défendre toutes les causes ou
Moi, je pense que toutes les causes sont défendables. Et je pense qu'aujourd'hui, on vit dans une société où on s'allie plus à une manière de défendre une cause, donc à des ONG ou à des associations qui cherchent de le faire, donc ou de le faire directement. Donc ça, tout dépend, pour moi c'est pas vraiment une question de cause, ça dépend de comment c'est fait et par qui. Et dans ce cas-ci, je connais bien le 11-11-11, on a déjà fait vous avez organisé des concerts de sensibilisation, je connais pas mal de gens qui travaillent chez vous. Et moi, non seulement j'étais... tout à fait confiant en la cause en soi, mais aussi par rapport à vous, comment vous travaillez. Je trouve que vous travaillez de bonne manière, vous êtes cohérent. C'est une question d'intégrité, je pense, plus qu'une question de cause, quoi.
Voilà, ce qu'on voulait proposer dans l'immédiat, en fait, c'était de faire une petite pause musicale, mais on a quand même deux grands talents dans les studios. Et on se demandait si vous étiez d'accord de faire un petit morceau comme ça au micro, Marlène,
improvisation. Improvisation ?
Mais oui.
D'accord.
Allez,
tu lances une mélodie, puis moi je te suis ?
Non, lance d'abord.
Tu veux que je lance un beat ?
Oui, d'accord. Pas trop haut, hein.
Lent ou plutôt lent ou...
Ce que tu veux.
D'accord. Mais je vais mettre le casque alors pour monter.
Allez, vas-y.
Allô. Et là, voilà. Vous m'entendez bien là ? Yo yo, je m'entends pas très bien. Allô ? C'est bon ?
Moyen du soleil, oh côté où y est. Moi le soleil, oh non non non, et moi le soleil, ouh le soleil. Moi lever grand matin la passe, oh moi lever grand matin passe, moi le soleil. Moi lever grand matin passe, et moi lever grand matin passe, moi le soleil. Ah 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 ah, ah 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 ah. Ah, 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 ah. Oh, mon soleil, depuis matin bâti, mon bagabale. Oh, soleil, pas tout, tout soleil, ah, ah, soleil. On nous met nous la main, on nous met nous la main, pour nous casser la joie. On nous met nous la main, pour nous résister. Hey, 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 hey. Soleil.
Ouais.
On dit ancien bon, toujours bon.
Et donc c'était toujours, mais c'était de l'impro donc de Marlène ouais. Dorsena et de Primitive sur Radio Esperanza. Et quoi attendez, comment ouais, ça
comment...
Non, non, si.
On se rencontre aujourd'hui.
Ouais, non, c'est un quart d'heure avant.
Ah oui, mais je vais vous faire une confidence. Lorsque j'ai quitté la scène après mon concert, et puis il y avait des gens qui venaient me voir, je disais, et je vois ce garçon passer, il me dit bonjour, et en une fraction de seconde, j'étais persuadée que c'était lui que j'allais rencontrer aujourd'hui.
Parce que tu n'avais pas vu.
Non, je ne t'avais pas vu avant. Ah non, je ne le connaissais pas. C'est terrible, hein. Comme quoi
c'est les rencontres improbables d'Esperanza.
Oui. Non, mais c'est juste. Bon, je crois que vous avez déjà préparé un tas de choses ensemble, puis pour défendre ensemble. Eh bien, bon, je reste en voix, alors. Donc, il faut y aller pour me faire taire.
Peut-être le début d'une grande, grande histoire.
Mais bien
finalement.
Sûr, c'est ce que j'allais dire. On va se revoir.
Donc alors, comment est-ce qu'on prépare cette deuxième année finalement de... Parce qu'on rentre dans une espèce de... Ça... Les campagnes CNCD, en fait, c'est toujours deux ans. Mm-hmm. Et puis, il y a une espèce de... Au milieu, comme de renaissance ou de renouvellement pour continuer, comme on est... Hasta aquí hemos llegado, on est là. Comment est-ce qu'on retravaille, comment est-ce qu'on redémarre une deuxième année? Et ici, avec à chaque fois la présence... une présence artistique ou...
Il y a deux choses. Il y a d'abord les objectifs politiques avec l'agenda. Et donc, on savait que dans la deuxième année, il allait y avoir ce sommet de Doha au Qatar qui est assez important parce que, en termes de timing, plus on se rapproche de fin 2012, on savait que c'était la fin du protocole de Kyoto. Donc, il allait y avoir un vide juridique. Donc on savait au début de la campagne de 2 ans qu'on aurait bien besoin des 2 ans pour les enjeux politiques. Et puis il y a la question du type de campagne que l'on mène. Et donc Sing for the Climate, c'est justement comment rebooster une campagne sur une même thématique, mais de manière différente. Et donc les citoyens qui ont participé l'année dernière, où ils devaient signer toute une série d'engagements et changer leur mode de vie pratique chez eux, bah voilà, cette année, ils doivent chanter sous forme de pétition vivante, comme on a expliqué. Et ça lance toute une nouvelle dynamique avec de nouvelles personnalités qui s'engagent, parce qu'évidemment, à partir du moment où on dit on va chanter, bah, y a tous ceux qui chantent et qui sont musiciens, et ils ont tout de suite répondu présent, et c'est un nouveau type de personnalité qui touche aussi un autre type de public. Évidemment, chaque artiste a son image, son type de public, et donc ça permet d'aller chercher les gens là où ils sont, c'est-à-dire chez eux ou n'importe où, en train d'écouter les artistes qu'ils aiment, quoi.
J'ai entendu dire que Elio Di Rupo avait chanté, c'est possible?
Oui, ça c'était vraiment le hasard. On a fait ça pour la première fois au Festival de la CEMO. Oui. Et donc le but du jeu étant d'aller porter cette pétition vivante au Premier ministre, et on commençait depuis quelques heures la campagne qu'il passait par là. Et on l'a fait directement chanter, on l'a filmé comme ça. Quand on ira lui apporter les milliers de pétitions humaines qui auront chanté, il saura tout de suite de quoi on parle, puisqu'il aura participé.
Ce qui est positif, bien entendu.
Bah oui, tout à fait. Oui. Il faut sensibiliser aussi les décideurs politiques. Hein. Faut pas croire justement. Que les décideurs politiques, ils sont souvent, et surtout en Belgique ces derniers temps, englués dans leurs problèmes internes et communautaires en Belgique. Et les enjeux internationaux, ils passent souvent bien après. Donc s'il n'y a pas des gens comme nous qui viennent taper sur le clou en disant il y a des problèmes sur la planète et il faut que vous vous en occupiez, bah, ils sont vite évidemment occupés par leurs problèmes locaux qui sont peut-être importants aussi, mais je veux dire, c'est pas ça qui va changer la face du monde, quoi.
Enfin, il n'y a pas que des préoccupations locales, hein, puisque quand même c'est notre gouvernement qui s'est engagé récemment à Rio de diminuer les gaz à effet de serre de 30%.
Ah oui, c'est ça.
Alors
oui.
Moi ça me fait bien rire, parce que quand on voit que déjà ils s'étaient engagés à pareil ou à peu près à Kyoto, ils relancent la machine alors qu'ils ne font pas spécialement.
Ceci dit, en l'occurrence, ce n'est pas l'Union européenne qui est le pire des cancres, je veux dire, dans la classe des gouvernements du monde. C'est clairement la Chine et les États-Unis, enfin d'abord les États-Unis puis ensuite la Chine. À eux deux, ils concentrent la moitié des émissions de gaz à effet de serre mondiales. Et donc il y a un grand débat en Europe depuis plusieurs années. Est-ce qu'on va diminuer de 20% ou de 30% nos émissions de gaz à effet de serre d'ici 2020? Mais il faut savoir que le différentiel de 10%, hein, si on passe de 20 à 30% en Europe, ça représente 2 semaines d'émissions de gaz à effet de serre en Chine, et donc encore moins aux États-Unis. Donc ça permet aussi de se rendre compte qu'on est dans un monde qui a beaucoup changé, et où nous, Européens, qui avons dominé le monde pendant des siècles et des siècles, ça commence à ne plus être le cas, et donc, comme je disais tout à l'heure, il faut créer des réseaux internationaux, et plus seulement de manière verticale, en disant voilà, nous on a l'argent, donc on va vous aider. Non, c'est de créer des partenariats globaux pour régler des problèmes qui sont des problèmes communs, et on n'a plus du tout toutes les cartes en main, nous, Européens, pour régler les problèmes du monde. D'où l'importance de créer des réseaux de solidarité internationale qui dépassent de loin les frontières européennes.
Alors, mais d'accord sur le côté que c'est les États-Unis et la Chine, et que l'Union européenne, finalement, n'est pas un si mauvais élève que ça. Néanmoins, est-ce qu'on peut aujourd'hui dire qu'il y a eu une diminution en Europe, hein, voire même en Belgique? Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'il y a eu une diminution des gaz à effet de serre depuis Kyoto?
De 3% exactement.
Donc
voilà, ce n'est pas une fin en soi non plus, parce que une des raisons pour lesquelles on a diminué nos émissions de gaz à effet de serre, c'est d'abord la crise, hein, qui fait qu'on produit moins. Et puis voilà, le fait qu'on a délocalisé beaucoup d'entreprises en Chine et dans les pays asiatiques, qui fatalement polluent de plus en plus, parce qu'en délocalisant nos usines, on délocalise aussi les émissions de gaz à effet de serre. Donc il faut faire attention. Comme je disais, il faut vraiment un accord à l'échelle mondiale. Autrement, il y en aura toujours qui essaieront de se présenter comme meilleurs que les voisins. Mais voilà, la planète, elle est une. Il y a un écosystème, et on ne peut pas commencer à dire bah, c'est les Wallons, c'est les Flamands, ou c'est les Chinois, c'est les Américains. Tout ça, ça ne fonctionne pas. Il faut qu'on ait un accord à l'échelle mondiale, d'où le type de campagne et les visées politiques que l'on a, quoi.
Ouais, donc d'un côté, il ne faut pas être si fier que ça d'avoir diminué nos gaz à effet de serre de 3%, puisque c'est de toute façon...
Et de toute façon...
les 3% sont peut-être renvoyés en Chine, puisqu'on a...
Mais ceci dit, il ne faut pas prendre la question du climat... Enfin, c'est une contrainte physique, mais il ne faut pas la prendre comme la nécessité d'abandonner un mode de vie vie prospère, etc. Ce qu'il faut, et nous on l'attaque par ce bout-là, c'est une opportunité. Le système économique dans lequel on vit, il est à bout de souffle financièrement comme au niveau climatique et environnemental. Donc de toute façon, ceux qui pensent que dans 50 ans, on va vivre dans le même monde d'un point de vue financier ou climatique, bah, ce sont des doux rêveurs, puisque si on continue comme ça, les catastrophes vont s'exacerber. Et par contre, bah, on cherche un nouveau système économique et on voit justement qu'il y a une possibilité d'avoir des modes de production et de consommation qui soient plus pauvres en carbone, qui soient moins gourmands en ressources naturelles, ce qui implique de nouvelles technologies, de nouveaux types d'emplois, de nouveaux types d'activités économiques. Et c'est quelque part une façon de sortir de la crise par le haut. Donc il faut y aller, je veux dire, de manière constructive et positive et pas voir ça comme un recul, de civilisation. Au contraire, c'est une opportunité pour faire un saut qualitatif, pour vivre tout aussi bien, mais avoir un modèle de développement qui soit généralisable à l'ensemble de la planète, parce qu'il ne faut quand même pas oublier qu'il y a 15% de la planète, grosso modo, qui profite du modèle de développement dans lequel on vit, et qui soit plus équitablement réparti. Hein, il y a 20% de la population mondiale qui consomme 80% des ressources naturelles aujourd'hui. Donc, il y a un gros problème financier et social, économique, derrière les problèmes climatiques. Tout ça ne fait qu'un. Et donc, nous, quand on parle de transition, hein, transition socio-écologique, ça veut dire avoir de nouveaux modes de consommation et de production, mais ça ne veut pas dire se serrer la ceinture. Hein. Se serrer la ceinture, c'est ce que nous demande déjà la Commission européenne et le FMI, hein, l'austérité généralisée. Donc, on y est déjà. Hein. Même ceux qui prônent la décroissance, je leur dis, mais ça ne sert à rien de vous mobiliser, on y est déjà. On a la récession depuis des années. Déjà. Donc, ce qu'il faut, c'est de nouvelles formes de prospérité qui bénéficient à tout le monde et qui soient généralisables à l'ensemble de la planète. Et ça veut dire des innovations et ça veut dire évidemment changer nos modes de vie. Mais hein, maintenant qu'on met 10 centimes dans un supermarché le coût du sachet en plastique, ben, il n'y a plus personne qui prend un sachet en plastique automatiquement. Donc parfois, il suffit d'une petite politique incitative pour que les gens changent leur mode de vie et ça ne leur change en fait rien à leur mode de vie. C'est simplement ils polluent moins. Et même avant, les gens utilisaient les sacs en plastique sans se rendre compte bien souvent que ça polluait. Ben voilà, le fait qu'il y ait des décisions politiques de ce type-là, ça permet de faire changer les comportements de manière bénéfique. Et donc, il faut rendre plus cher ce qui pollue et rendre moins cher ce qui ne pollue pas, évidemment. Parce que quand on va lancer une innovation, hein, par exemple, la voiture électrique, ça fait plus d'un siècle qu'on sait que techniquement, on peut le faire. Mais il n'y a pas la volonté politique de le faire. Surtout, il y a les groupes pétroliers derrière qui ont des gros intérêts, donc qui veulent surtout pas qu'on change de mode de carburant pour une voiture. Et ça fait plus d'un siècle qu'ils gagnent, mais ils vont pas pouvoir gagner jusqu'au bout parce qu'il y a les limites physiques. Et ça, c'est la contrainte. On ne peut pas jouer avec le climat. Bon, moi, je suis pas climatologue, mais tout le monde nous dit que 2020, c'est le point de non-retour. 2020, c'est dans 8 ans. Donc, il est temps de se retrousser les manches. Et c'est pour ça qu'on va chanter le plus fort et le plus nombreux possible. Quoi.
Oui, mais justement, par rapport justement à ces différents modes de consommation, on en avait parlé avec Jean Gérald, qui est responsable du département environnement du festival Esperanza. Mmh. Alors oui, c'est bien les énergies alternatives, etc. Et je voulais un peu votre opinion sur la chose. Mais par exemple, Jean Gérald donnait l'exemple de télé à basse consommation. Ok, maintenant, c'est bien, il y a des constructeurs qui ont mis en place des systèmes de voitures électriques, tout ce qu'on veut. Mais au final, pour avoir 3 voitures au lieu d'une, parce que vu que ça consomme moins, on peut consommer plus, finalement. Mmh. Pareil pour une télévision. Marlène, je voulais avoir un peu ton opinion. Je suppose que tu fais quand même des allers-retours entre la Belgique et Haïti. Tu n'es pas, ça te rend pas nerveuse un peu de voir, je suppose qu'il y a quand même une niveau mode de consommation, un creux. Je voudrais un peu avoir ton point de vue.
Donc, vous me demandez de comparer Haïti et la Belgique au niveau de la consommation.
Oui, même si la question peut paraître un peu bateau comme ça.
Bien sûr. Je suis toujours pas seulement en Belgique. Moi, je voyage énormément. Je peux vous dire que je viens de faire une tournée la semaine passée. J'étais en Italie. J'étais en Toscane. Eh bien, mon Dieu, j'étais vraiment exacerbée, sidérée par tout ce que j'ai vu, quoi. Comment les gens peuvent consommer mais énormément, et puis comment la vie coûte cher là-bas, et pour certaines personnes, c'est rien du tout, c'est comme si c'était normal, etc. Et bien, pour répondre à votre question, oui, je suis souvent choquée par ça. D'ailleurs, c'est une lutte permanente, quotidienne, même mes enfants aussi, ils me suivent dans ma démarche. J'essaie de leur dire, et je travaille dans les écoles aussi, à des étudiants, à des écoliers, qu'il faut absolument qu'ils prennent conscience de ce qui se passe actuellement dans le monde. Parce que c'est très important. Alors souvent, je leur dis, on peut poser 2 questions en une. Est-ce que nous appartenons à ce monde ou bien est-ce que ce monde nous appartient? Quelle que soit la réponse, nous avons intérêt à agir, à faire quelque chose. Donc, en Haïti, bien sûr, nous avons aussi un autre problème comparativement à ici, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui ne se passent pas suffisamment bien, il y a beaucoup de décalage, il y a une tristesse aussi dans cette société, la société haïtienne. Qu'est-ce que j'entends par ça? Il y a beaucoup de gens qui délaissent les manières de nos grands-parents. Or, nous avons la possibilité d'avoir un soleil, je dirais même 24 heures sur 24, j'exagère un petit peu, mais pour vous dire qu'on on sème les graines ce matin, dans 2-3 jours, ça germe, et puis bon, voilà, on y va. Mais beaucoup de gens maintenant préfèrent aller acheter du riz qui nous est importé par les États-Unis. Pendant ce temps, Haïti produit plusieurs sortes de riz. Les gens achètent du jus qui coûte rien du tout, que les Américains nous envoient, qui n'ont aucun goût, aucune saveur. Et pendant ce temps, nous avons des orangers, nous avons des arbres fruitiers qui sont là. Donc, quelque part, le pays ne produit rien du tout parce qu'on nous importe tout, on nous envoie tout. Pour moi, je trouve que c'est un acte d'assassinat parce qu'on ne peut pas prendre ce pays, ce peuple en otage. Le peuple haïtien, je pense qu'il se sent comme des otages dans son propre pays et ce n'est pas normal. Donc, au début, je vous disais que tout est lié. On parle du climat, c'est lié à l'économie, à la culture, à l'éducation. Donc, si les gens veulent vraiment faire quelque chose, qu'ils prennent conscience de cette situation, et je m'adresse aux politiciens aussi, parce que eux, ils ont quand même une grande part de responsabilité. Nous sommes tous responsables, mais les politiciens, c'est eux qui prennent des décisions. Il y a des lois qui ont été votées. Nous, les personnes normales, nous ne sommes pas au courant de tout ça. On se lève un matin, on entend dire « Ah oui, voilà, il y a ça, le gazole va augmenter, le diesel va augmenter. » On ne nous a pas demandé notre avis. Alors, ces gens-là qui prennent des décisions sans nous demander notre avis, je dis stop, parce que nous partageons le même monde. Ils ont quand même des enfants. Ils vivent aussi dans ce monde. Alors maintenant, basta, quoi. Mettons-nous autour de la table. Pensons vraiment à un lendemain meilleur, à un futur pour nos enfants, pour nous-mêmes. Ce n'est pas compliqué. Il suffit simplement d'avoir une bonne volonté, et puis c'est tout.
Et prendre en main, justement, cette possibilité de décision... cette volonté de... Parce que le problème, je suppose, en Haïti, ça peut être aussi le fait que... Quel est le modèle de qualité de vie qui est montré par l'Occident, qui, lui, consomme à fond, sans trop faire gaffe, sans trop réfléchir. Parfois, on perd peut-être, comme tu disais, des habitudes peut-être ancestrales, mais qui restaient simples et saines pour prendre l'habitude d'acheter moins cher un jus, comme tu dis. Et c'est un peu le piège du modèle d'une qualité de vie qui est démontrée une caméra.
Oui, justement, je vous parlais de l'éducation, c'est important. Moi, j'investis beaucoup dans l'éducation et je pense que l'éducation, dans mon cas, dans le cas d'Haïti, il est important que l'éducation prenne le dessus. D'ailleurs, il y a même un grand écrivain haïtien qui s'appelle Dany Laferrière qui disait que c'est la culture qui sauvera ce pays. Moi, je partage cette opinion, je partage cette phrase, mais je pense que l'éducation, c'est très, très important. Pas seulement pour Haïti, mais pour tous les pays. On parle maintenant d'un sujet assez important. Mais si on n'éduque pas les enfants, si on n'éduque pas les gens, comment voulez-vous qu'ils participent à ce
changement.
À ce changement? Ce n'est pas possible. Or, ça concerne tout le monde.
Eh bien voilà, on l'a compris, la lutte pour la justice climatique, pour sauver le climat. Une seule façon de le faire, une seule façon de le faire, non. Une des manières de le faire, c'est de chanter avec le CNC des 1111, Marlène Dorsena. Et Primitive, c'est rendez-vous à quelle heure?
19h15.
À 19h15, quelque part dans l'abbaye, non?
Sur
côté jardin.
Côté jardin.
Sur la scène, côté jardin, carrément. Radio Esperanza sera également présente. On retrouvera aussi la clôture, c'est le gros événement de Sing for the Climate. Ce sera le 22 et 23 septembre, comme tu le disais Bruno, dans 9 villes. Et alors ce que j'aime bien, c'est que c'est pas spécialement les villes, on pourrait s'attendre à Namur, Liège, Charleroi, Arlon, et bien non, ce sont des petites villes aussi.
Et puis il est encore temps d'en avoir plus. Hein. Enfin, on dit 9 parce qu'il y en a 9 des personnes dans 9 villes qui sont engagées à faire quelque chose de 22-23, mais on espère que d'ici là, il y en aura beaucoup plus.
Mobilisez-vous.
C'est avant tout l'idée que les gens prennent en main cette action et l'organisent chez eux. Et les 4 villes que tu as citées, en fait, organisent l'action. Mais en plus de ça, on a Étale, Barvaux, Marchand-Famène, Hatte et plusieurs communes bruxelloises. Donc effectivement, il y a un peu les deux.
Eh bien voilà, mobilisez-vous dans votre commune, chez vous, dans votre quartier, et chantez pour le climat le 22 et 23 septembre.
Ben voilà, c'est ici qu'on va se quitter pour retrouver dans un instant, si je ne
nous
me trompe pas, donc il s'agira d'une interview
de Molotov. Ça va être explosif.
Voilà, ça va être explosif.
Débat sur Radio Esperanza.